L'attente du miracle. 20e dimanche après la Pentecôte. Vous ne croyez donc point à moins de voir des signes et des prodiges. Jean chapitre 4 verset 48. Seule une lecture active de l'évangile de ce dimanche donnerait l'impression qu'après avoir opposé au fonctionnaire royal une fin de non-recevoir, notre Seigneur se ravise et consente à accomplir le miracle demandé. Jésus, en effet, commence par blâmer ceux qui attendent d'avoir vu des signes et des prodiges pour croire en lui. Sur quoi le dignitaire de la cour, tout à son anxiété, supplie le maître de descendre au plus tôt de Cana à Capharnaüm, car son petit enfant était à la mort quand il l'a quitté quelques heures plus tôt. Et Jésus lui répond, « Tu peux t'en aller, ton fils est en vie. » Or le père n'attend pas d'avoir vu la guérison de son fils. Aussitôt l'homme crut à la parole de Jésus et se remit en route. Le sauveur n'a pas corrigé sa condamnation antérieure. Le fonctionnaire a cru avant d'avoir vu. Il en sera récompensé d'abord par la guérison de l'enfant et plus encore par les grâces spirituelles que lui et toute sa famille obtiendront en devenant les disciples du Seigneur. D'ailleurs, le reproche avait été formulé au pluriel. Il ne visait pas directement l'officier d'Hérode, mais toutes les personnes présentes. « Vous ne croyez donc pas ?» En réalité, les nombreux miracles opérés par Jésus rentraient dans sa fonction messianique. Les prophètes l'avaient annoncé, Luc chapitre 7, verset 18. Et l'on ne saurait contester que ces prodiges n'aient été nécessaires pour lui gagner l'adhésion de ses disciples. Il n'en est pas moins vrai qu'ils ne déterminèrent qu'un nombre relativement faible de conversions. Jésus s'en plaignit à plusieurs reprises. Il reprocha aux habitants de Chorosaïm et de Bethsaïde, où avait eu lieu le plus grand nombre de ses miracles, de ne s'être pas convertis. Matthieu, chapitre 11, verset 20. Et des gens de Jérusalem, il dira, « Si je n'avais pas accompli parmi eux des œuvres que personne n'a jamais faites, ils n'auraient pas de péché. » Jean, chapitre 15, verset 24. Saint Jean le note avec tristesse. Malgré tant de miracles opérés sous leurs yeux, ils ne croyaient pas en lui. Chapitre 12, verset 37. Le miracle de lui-même n'engendre pas la foi. Il produit sur les témoins un choc destiné à secouer leur routine et à fortifier leur foi naissante, ou confuse, ou chancelante, pourvu que leur disposition intime n'y mette point obstacle. C'est parce qu'ils trouvent la foi dans les cœurs que Jésus guérit tant de malades. Ces paroles vous sont bien connues. « Va, ta foi t'a sauvé. Ta foi est grande. » Qu'il te soit fait comme tu veux. Au contraire, à cause de l'incroyance de ses compatriotes de Nazareth, Jésus ne put accomplir chez eux aucun miracle, sauf quelques guérisons. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Marc, chapitre 6, verset 5. Aussi proclame-t-il un jour qu'à une génération mauvaise et adultère, il ne sera accordé que le signe du prophète Jonas, image de sa résurrection d'entre les morts. Matthieu chapitre 12 verset 39. Après cette preuve éclatante de sa divinité, il ne restera plus qu'à croire en sa parole. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais venons-en à notre temps et à nous-mêmes. On aurait pu supposer que les découvertes incessantes de la science décourageraient les hommes de notre époque de chercher ailleurs que dans la nature des sujets d'émerveillement. Mais le goût du merveilleux n'a pas été exorcisé pour autant. À l'heure des catastrophes surtout, les émules de Nostradamus foisonnent et leurs prédictions sont assurées d'une large audience. Au premier bruit, signalant des apparitions, toute une région est en émoi et ne cède qu'à regret, aux réserves ou aux interdictions de l'autorité ecclésiastique. Quels pèlerins revenant de Lourdes ne se sont pas entendus poser la question « Avez-vous vu un miracle ?» Les prodiges n'ont pas fini d'exercer leur séduction sur les esprits. Sans oublier ceux des nôtres qui répétaient dans les débuts de la dernière guerre qu'elle serait brusquement terminée par une intervention miraculeuse, n'y ont-ils pas encore qui, dans les jours mauvais que nous vivons, implorent du ciel le signe qui ferait éclater aux yeux de tous l'erreur des idéologies dressées contre la vérité chrétienne? Sur un champ plus restreint, d'autres espèrent de Dieu le miracle capable de convertir un parent incrédule, rebelle à leur influence. Nul doute que ces fidèles n'obéissent à d'excellentes intentions. Mais ne se souviennent-ils pas de l'avertissement que Jésus a placé au terme d'une de ses paraboles? Lorsque le riche supplie Abraham d'envoyer Lazare sur la terre pour attester à ses 5 frères les souffrances qu'il endure, le patriarche lui répond « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et le riche d'insister « Non, père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. » Abraham lui réplique « Du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait des morts, ils ne seraient pas convaincus. » Moïse et les prophètes ont fait assez clairement connaître aux frères du malheureux les conséquences d'un mauvais usage des richesses. Puisqu'ils n'ajoutent pas foi à la parole de Dieu, un miracle aussi sensationnel que le retour d'un mort au milieu des siens ne les persuadera point. Leur opposition à la foi ne provient pas d'un savoir insuffisant, mais de leurs préjugés ou d'autres dispositions mauvaises. Cet obstacle ne serait pas levé par un miracle. À plus forte raison, les signes et les prodiges sont-ils inutiles à un chrétien, au lieu qu'en s'obstinant à les attendre, il s'expose à perdre la foi? Tel de nos frères n'a pas hésité à demander à Dieu le miracle qui rendrait la santé à un être cher. Et lorsque la mort implacable est survenue, il a cessé de prier et de croire. Certes, le Seigneur ne réprouve pas, loin de là, les prières les plus hardies. « Tout est possible à celui qui croit », a-t-il déclaré. Cependant, si l'on ne peut que s'incliner devant une foi assez intrépide pour solliciter un miracle, la foi la plus admirable est celle qui sait renoncer au miracle pour répéter le mot de notre Sauveur à Gethsémani. « Toutefois, Père, que ta volonté soit faite. » Le bien-aimé que vous n'avez pas réussi à arracher aux griffes de la mort n'aurait-il pas dû néanmoins mourir un jour? Croyez que l'heure choisie par le Père, qui l'aime encore plus que vous, était pour lui la meilleure. D'autres chrétiens, non moins malheureux, sentent leur foi s'éteindre parce que Dieu leur a refusé le miracle de retenir au foyer le coupable qui en avait transgressé les devoirs. Le miracle d'empêcher un enfant de contracter un mariage déplorable. Le miracle de conjurer la ruine d'une entreprise. Pourtant, explique-t-il, nous avions prié avec toute notre foi. Dieu ne nous a pas exaucés. Y a-t-il un Dieu pour nous entendre? C'est là toute votre foi. Suppliez plutôt le Seigneur de venir en aide à votre incrédulité. Car si vous croyez que Dieu est votre Père, comme il est le Père de ceux que vous avez recommandés à sa bonté, vous devez être certain que sa providence s'exerce sur eux, que s'il doit respecter leur liberté, sa grâce les suivra dans leurs erreurs et dans leurs infortunes, et qu'il se servira de leur triste expérience ou de leurs épreuves pour les ramener à lui. Voilà le vrai miracle qu'il réserve à votre foi, car tout est possible à celui qui croit. Non, mes frères, les âmes religieuses n'ont besoin ni de signes ni de prodiges pour croire à la présence de Dieu, à son action dans le monde, à sa tendresse envers chacun de ses enfants. Elles les reconnaissent dans l'incident le plus banal, aussi bien que dans le miracle le plus singulier. Par quel aveuglement s'imagine-t-on que lorsque Dieu modifie le jeu habituel des forces naturelles, son action est plus évidente que dans le cours régulier des lois de l'univers, ordonnées par sa sagesse bienfaisante? Écoutez saint Augustin nous répondre. Le gouvernement de l'univers est un miracle plus grand que de nourrir 5 000 hommes avec 5 pains. Nul, cependant, ne s'en étonne. On admire le second, non qu'il soit un grand ouvrage, mais parce qu'il est extraordinaire. C'est à peine si l'on daigne prêter attention à l'œuvre admirable et surprenante de Dieu dans un grain de blé, car Dieu lui-même accomplit tous les jours dans le monde des miracles dont les hommes font peu de cas. Ces œuvres divines seraient-elles plus aisées à effectuer? Non, mais nous sommes habitués à les voir. Le même Seigneur, le Verbe qui s'est incarné pour nous, a forcé l'étonnement des hommes par des merveilles qui ne dépassent pas celles dont la nature nous offre chaque jour le spectacle. Mais en raison de leur rareté, elles leur apparaissaient manifester une puissance supérieure. Un mort revient à la vie. Les gens sont stupéfaits, et nul ne s'étonne que chaque jour des enfants viennent à l'existence. On s'extasie devant l'eau changée en vin à Cana. C'est pourtant exactement ce que Dieu fait tous les ans dans vos vignobles. Le grand docteur explique ensuite que les miracles exceptionnels répondent à une intention particulière de Dieu et sont pour lui un mode d'enseignement. Le chrétien fidèle à l'habitude de l'adoration quotidienne découvre sans peine l'action de Dieu dans le monde. Quoi de plus pathétique que de voir la végétation reprendre à chaque retour du printemps? Le Créateur est fidèle à ses enfants. Il ne les oublie pas. Il les nourrira cette année encore. Que la création ne soit pas livrée aux caprices d'une puissance aveugle, mais obéisse avec une émouvante régularité au rythme qui lui est éternellement fixé. Cette merveille, ce vrai miracle, nous montre jusqu'à l'évidence que Dieu est au milieu de nous. Du prix des mots, c'est nous qui sommes entre ses bras. Les progrès de la science, à qui la nature livre l'un après l'autre ses secrets, nous font connaître dans un émerveillement croissant la perfection des œuvres divines. « Le monde est plein de Dieu, disait saint Angèle, et je n'en doutais pas. La merveille n'est pas que Dieu opère des miracles, mais que le cours de l'univers se déroule sans à-coups et sans retouche. L'harmonie du monde crie assez haut sa puissance et son amour. » Aux yeux du croyant qui réfléchit, l'intervention divine ne se montre pas moins clairement dans la suite des événements. Ceux-ci se produisent parfois si différemment de ce que les conjonctures laissaient prévoir que la voix populaire prononce le mot de miracle. Réservons cette appellation aux grands faits heureux de l'histoire, mais qui d'entre nous n'a pas eu au moins une fois dans sa vie son miracle de la Marne? Il est possible, après coup, de démêler l'enchevêtrement des causes secondes et de conclure que le résultat inattendu est celui qui devait arriver. Mais si le jeu des circonstances nous a été favorable, qui l'a réglé? Parler des caprices du hasard équivaut à ne rien expliquer. Vous êtes sorti de chez vous à une heure inhabituelle, ou bien vous avez pris un chemin inaccoutumé, vous avez fait une rencontre et vous avez dit le oui ou le non qui a déterminé un événement capital auquel vous devez le bonheur de votre vie. Un vrai miracle, dites-vous. Dieu ne cesse d'en faire de semblables pour tous ses enfants. Tous les cheveux de votre tête sont comptés. N'est-ce pas là une merveille permanente? Vous objectez qu'au contraire, une rencontre fortuite ou telle décision inopinés vous ont occasionné un accident ou un malheur. Le Père veillait-il alors sur nous? N'en doutez pas, et si vous croyez avant d'avoir vu des signes et des prodiges, vous ne vous hâterez pas de regretter un événement douloureux à coup sûr, mais qui n'est qu'une étape de votre existence. Dieu connaît les sinuosités et le terme du chemin où sa bonté vous accompagne. Vous n'attendez peut-être pas longtemps avant d'admirer la conduite de sa providence. Il y a des secrets plus profonds entre Dieu et le croyant. Ce sont dans le drame de notre vie intérieure, la lumière qui nous affirme la présence d'un autre au-dedans de nous, l'invitation pressante de cet autre intérieur à un changement ou à une nouvelle orientation de vie, les mêmes appels qu'on lit dans l'Évangile. Convertissez-vous, toi suis-moi. La conversion d'un pécheur ou le brusque retour d'un esprit à la foi, ces intrusions d'une personne qui retourne nos idées et bouleverse nos désirs, sont des miracles d'ordre moral plus étonnants et plus persuasifs qu'aucun prodige extérieur. Les pèlerins de Lourdes sont unanimes à cet égard. L'immense majorité d'entre eux n'ont assisté à aucune guérison, mais quelqu'un a transformé leur cœur dans l'atmosphère de prière et de charité où leur foi s'était retrempée. Nous pénétrons ici dans le domaine de la grâce et à la vérité, les prodiges dans l'ordre de la nature sont un des moyens dont Dieu se sert pour élever la pensée des hommes jusqu'à l'ordre surnaturel. Mais ces signes sont-ils utiles aux chrétiens qui se sait le fils adoptif de Dieu et qui croient à l'efficacité du baptême et de l'Eucharistie? On lit dans l'un des plus riches traités spirituels que nous possédions, qui croit à la faveur que Dieu a faite aux hommes en se faisant homme, n'en doit trouver nul autre incroyable ou surprenant. Toutes les communications que Dieu peut faire après celle-là ne sont rien. Après l'incarnation, nous ne devons plus rien admirer. Tous les miracles, apparitions et faveurs spirituelles pâlissent auprès du don inouï de Dieu, qui n'a pas épargné son Fils et l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, ne nous a-t-il pas tout donné ? Romains, chapitre 8, verset 32. Nous réclamons des miracles quand nous avons reçu infiniment plus que ce que nous briguions, semblable à l'enfant qui tourmenterait son père pour en obtenir une pierre alors que celui-ci lui donnait du pain. Nous voudrions que Dieu fît suivre aux événements la pente de nos rêves et nous fermons les yeux aux prodiges surnaturels que sa puissance opère en nous. Que manque-t-il à des hommes qui déjà participent à la vie de Dieu ? Retenons la réponse de Jésus au fonctionnaire royal qui crut avant d'avoir vu. « Ton fils est vivant. » La liturgie de ce dimanche veut que chacun de nous entende « Le Seigneur l'a lui adressé. » Au moment de la communion, l'antienne nous invite à nous souvenir de cette parole divine qui justifie notre espérance afin qu'elle soit un réconfort dans notre misère. Quel miracle égalerait l'union prodigieuse que l'Eucharistie réalise entre Dieu et nous ? Chrétiens, nous sommes des vivants. Le sacrifice du Christ accroît et intensifie en nous cette vie divine. Acceptons notre condition humaine avec ses obscurités, ses épreuves et ses souffrances. Les prodiges qui nous en délivreraient seraient-ils plus avantageux que la guérison de nos péchés et la certitude renouvelée de la présence de Dieu en nous ? Une autre merveille nous attend au terme de ces jours mauvais, car nous sommes en route vers l'éternelle vie.